Shabbos Kodesh. Yidela prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh. A priceless gift.
Ah, bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine par Avraham Harold Weil, monsieur le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Bonjour.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous?
Très bien, très bien.
C'est notre cinquième rentrée aujourd'hui.
C'est extraordinaire. Ah, ça fait 5 ans. Pas le temps passer. Ouais. Avec vous, je vois pas le temps passer.
C'est gentil. Alors, on rappelle que on vous souhaite évidemment un bonjour, mais aussi Rosh Chodesh. Aujourd'hui, Rosh Chodesh. On dit quoi? On dit Cheshvan. Cheshvan,
c'est un raccourci. Le vrai nom du mois, c'est effectivement Mar Cheshvan. On a pris l'habitude de raccourcir un petit peu et on enlève comme ça toute l'amertume du mois. C'est pour ça qu'on enlève le Mar du Mar Cheshvan en souhaitant que ce mois voilà, soit un mois de joie. Je vous rappelle, Jean, que ce mois de Cheshvan est le seul mois de notre calendrier juif durant lequel il n'y a pas de fête. Donc c'est un mois
c'est
qui est amené à être
Mar.
Consolé. Oui, il y a cette amertume qui fait qu'aucun événement particulier ne structure ce mois, après un mois de Tishri particulièrement chargé, mais on sait que le mois de Cheshvan sera amené à être consolé par l'apparition voilà, d'une fête, et on la souhaite très prochaine.
Cette semaine, demain, nous lirons la paracha de Noar, Noé en français, deuxième livre de la Torah, l'allumage des bougies à 16h50 à Strasbourg. Et la fin, ce sera samedi à 17h56. On n'oublie pas, comme chaque semaine, de souhaiter une refoua shlema à tous nos malades à qui on pense. Également, un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Enfin, évidemment, on pense très très fort à tous nos frères en Israël qui, malheureusement, sont confrontés à la barbarie et au terrorisme. Il y a aussi des joies dans notre communauté. On a le joie et la joie et le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité.
Un invité d'honneur.
Un invité d'honneur, si vous voulez. Il s'agit de Liron. Bonjour Liron.
Bonjour Jean et bonjour aussi le grand rabbin et Chodesh Tov à tous les auditeurs.
Alors on va évidemment écouter un peu les questions de Liron tout à l'heure. Juste avant monsieur le grand rabbin, on va essayer un peu de connaître Liron, de qui il est, d'où il sort. Alors dis-nous Liron.
Bah déjà j'aimerais saluer mes parents Magali et Yigal Silom. Et mes grands-parents, Monique et Joseph Benabou, et Joël et David Selam, et mon arrière-grand-père, M. Roland Bloch, et surtout mes sœurs.
Voilà, surtout ses sœurs. Alors, on va, M. le grand rabbin, arriver au résumé de la paracha de Noé, Noar, paracha plutôt courte, courte.
Alors, je vais résumer la paracha, mais juste avant, je veux dire à Liron le plaisir que j'ai à partager cette émission de radio avec lui, juste avant de partager sa bar mitzvah. Allez, c'est là, mais moi, c'est une grande histoire. Et j'ai la chance, concernant Liron, de connaître à la fois ses grands-parents paternels, ses grands-parents maternels, puisque notre ami Jojo Benabou a été un collègue de mon père pendant des années,
ah oui, c'est
30
vrai.
Ans ou 40
à
ans.
De...
Exactement. Donc, c'est vraiment une très vieille amitié. Ils m'ont vu naître. Un grand Mazal Tov donc à Monique et Joseph Benabou, un grand Mazal Tov à tes grands-parents Selam, à Joël et à Daoud aussi, pareil, qui m'ont vu naître, je les connais depuis toujours.
Bah oui.
Un immense Mazal Tov à ton arrière-grand-père Roland, qui est notre pilier de la grande choule de Strasbourg. Il ne manque pas un office, il arrive avant tout le monde. On arrive le matin à la choule, Roland il est déjà là un quart d'heure ou 20 minutes avant tout le monde. Et qu'Hachem lui donne cette santé éclatante encore
merci,
jusqu'à
merci.
120 ans. Bezrat Hachem, il est presque centenaire notre ami Roland.
Amen.
Et on lui souhaite une
bonne
très
santé.
Très bonne santé.
Amen.
Pour qu'il puisse encore assister à beaucoup de smachot dans la famille. Et tu l'as dit bien sûr aussi à tes sœurs, hein, puisque Liron est un peu le rescapé. Là on va parler de Noar qui a été le rescapé de l'humanité. Liron c'est le sélam de la famille. Tu te rends compte de la responsabilité que tu as, Liron, ou pas? Parce que tu as oublié aussi de citer les autres membres, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, mais t'es le dernier sélam de la famille, mon ami. Donc tout repose sur toi. Alors je ne vais pas te mettre la pression juste avant la bar mitzvah, parce que ça va être un week-end magnifique et on va faire la fête. Mais je suis très très heureux de t'accueillir ici.
Merci beaucoup.
Et donc le résumé de cette paracha, qui est une paracha très longue. Genre très très longue. Paracha de Bereshit, c'était déjà une paracha très longue. Noar est une paracha encore plus longue. Et Noar, comme son nom l'indique, eh bien, ça nous raconte l'histoire de Noar, ce personnage emblématique qui est à la croisée des chemins. C'est à partir de Noar que toute l'humanité va être reconstruite, puisque, rappelons-le, les choses se terminent très mal à la fin du livre de Bereshit. HaKadosh Baruch Hu a décidé d'effacer l'humanité, puisque ces 10 premières générations ont été un échec absolu. Et heureusement, une personnalité va un petit peu émerger dans une génération qui est une génération d'échecs.
On en parle tout à l'heure.
Et donc, c'est Noar. Et donc, on va nous raconter toute son histoire, la manière dont Noar va être sauvé, la manière dont ce maboule, dont ce déluge que Dieu envoie sur l'humanité pour détruire le monde va tout simplement se mettre en place, avec bien sûr tous les détails sur la durée de ce maboule, sur la manière dont il se produit, sur la construction de la Teva qui va permettre de sauver Noar et sa famille, et surtout, et c'est ce qui sera aussi très intéressant dans notre paracha, c'est l'après-maboule. Comment est-ce que Noar va reconstruire l'humanité? Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Quelles vont être à la fois les bonnes initiatives qu'il va prendre, à la fois les erreurs aussi qu'il va pouvoir commettre, et c'est tout cela dont il sera question dans une deuxième partie de la paracha, qui va se terminer sur un deuxième événement très important dans l'histoire de notre humanité, après la génération du déluge, et nous allons voir ce qu'on appelle Dor HaPalaga, c'est la génération de la tour de Babel, qui va aussi commettre une erreur particulièrement grave, qui n'aura pas les mêmes conséquences que celle du Maboul, mais en tout cas qui nous apprend beaucoup à nous sur notre histoire aujourd'hui de juifs du 21e siècle.
Diron, notre première question.
Alors, on ne connaît pas grand-chose sur Noar, sauf qu'il a 3 fils. Mais vous pouvez nous en dire plus ?
Ah là là, quelle aisance au micro, ce Liron. Je crois que, Jean, on a trouvé un remplaçant, hein, ou en tout cas un acolyte, parce que je ne veux pas vous remplacer. Genre, vous êtes tellement beau, vous êtes irremplaçable.
Ah.
Est-ce que je peux t'en dire plus ? Alors, effectivement, tu as raison de faire remarquer. Et Liron, pour répondre à ta question, je me permets de te dire que ce que tu as fait remarquer au sujet de Noar, à savoir qu'on sait très peu de choses de lui, eh bien ce sera quelque chose qu'on constatera aussi pour les prochains grands personnages dont on nous parlera dans la Torah, d'Abraham notamment. Ce sera le cas aussi pour Yitzhak et Yaakov, mais Abraham c'est particulièrement marquant. On nous présente tout d'un coup de grands personnages qu'on ne connaît pas en réalité, on ne sait pas grand chose d'eux, et tout d'un coup ils ont l'air de tomber un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et c'est le cas effectivement de Noar. Alors pour répondre à ta question, je pense que la Torah a voulu en réalité nous présenter Noar surtout au travers de la qualité dont elle nous parle dans le premier verset, c'est-à-dire que Noar était un tzaddik. Voilà, peu importe de savoir d'où il vient, d'avoir des détails sur sa biographie, qui était éventuellement ses frères, etc.
C'est important quand même de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait.
Noar, on sait d'où il vient. On nous l'a présenté très rapidement dans le dernier verset de la paracha de la semaine dernière. Liron, si tu as été attentif, à la fin de la paracha de Bereshit, on nous parle déjà de Noar. Et on nous dit que Noar a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Donc on sait que Noar, lui, il intervient dans une génération dans laquelle, a priori, il n'y a pas d'avenir. Dieu a décidé de détruire ce monde, peut-être recommencer un nouveau monde. Et finalement, eh bien, Noar, lui, va se distinguer. Noar montre à HaKadosh Baruch Hu, il montre à Dieu qu'il y a peut-être encore un avenir possible pour l'humanité. Et cela pourquoi ? Parce qu'il a été tzaddik.
Alors, vous le disiez, on va y arriver. On dit dans le texte que Noar est un homme intègre et juste dans sa génération. Par contre, quand on lit les commentaires, c'est moins clair, c'est moins limpide. Il y a certains commentateurs qui disent que c'est un vrai grand homme dans la génération. D'autres qui disent que c'est pas super. Alors, éloge ou blâme ?
Alors, vous avez raison. Comment concilier deux avis qui sont aussi antinomiques ? Certains qui nous disent que Noar était un très grand homme, d'autres qui nous disent, attention, tout est relatif, c'était un grand homme, effectivement, au milieu de tous les Rechaim, tous les mécréants avec lesquels il vivait, mais si Noar avait vécu dans la génération d'Abraham, qui était une génération hautement plus spirituelle et plus noble au niveau de son comportement, bien Noar serait sans doute passé inaperçu. Bien, c'est pas inconciliable, Jean, c'est pas inconciliable. Noar est un personnage, finalement, assez ambigu. Il a à la fois de très bons côtés, mais des côtés plus sombres, ou en tout cas, on va dire, certaines lacunes. Et ces lacunes, elles sont notamment liées au fait, et je pense que c'est pour ça que c'est sur ce mot Bedorotav, en ces générations, que les commentaires ont un petit peu tilté, autour duquel les différentes perception de la vie de Noar se sont articulées, c'est parce que Noar est un personnage qui est finalement assez égoïste, Je m'explique, Noach a fait un travail extraordinaire sur lui, sur la manière de pouvoir un petit peu se distinguer de ses semblables pour ne pas leur ressembler et pour s'éloigner de leur mauvais comportement, mais sans nécessairement prendre en compte la nécessité de pouvoir aussi aller vers les autres et faire en sorte que les autres puissent également s'améliorer, c'est-à-dire ne pas simplement travailler sur moi et sur la manière dont je vais pouvoir m'extraire de la collectivité, mais faire aussi en sorte d'interagir
alors,
avec les autres pour les rendre meilleurs. C'est là-dessus que Noach n'était peut-être pas bon. Donc Noach était un tzaddik par rapport à lui, mais il n'était pas forcément un tzaddik par rapport aux autres.
Diron, t'as une question.
Dieu demande à Noach de construire une arche, et on apprend plus tard que Noach avait 600 ans. C'est pas un peu âgé pour faire une arche ?
Il est incroyable, ça ne les rentrait pas. On dirait, il me fait penser à dans C'est pas sorcier, là, celui qui pose les questions. Là.
Jamy.
Exactement, dans C'est pas sorcier.
Jamy, c'est celui qui répond.
Ah, celui qui répond. Ouais. Tu es plus moumbré que moi dans C'est pas sorcier. Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé C'est pas sorcier. 600 ans, c'est vieux, effectivement. 600 ans, c'est vieux, mais Liron, tu dois sans doute savoir, parce que tu as bien étudié ta paracha, tu dois sans doute savoir qu'à l'époque de Noir, on vivait très vieux.
Ouais.
Et donc, l'âge est toujours relatif à la durée de la vie qui était celle des personnes de la génération de Noir. Et lorsqu'on vit dans une génération dans laquelle on dépasse allègrement les 600 ans, les 700 ans, les 800 ans, on se rapproche même des 1000 ans, eh bien, 600 ans, finalement, c'est un âge assez moyen. Alors, Noir est déjà arrivé, on va dire, aux deux tiers de sa vie. Il a un âge qui exprime une certaine forme de maturité. Et c'est peut-être pas anodin si on a attendu ce moment-là. C'est parce qu'à cet âge-là, Noir a déjà passé la majorité de sa vie, et il peut prendre un peu de recul par rapport à la vie qui a été la sienne, une vie qui a été compliquée. Hein. On peut imaginer que dans une génération qui n'a pas été à la hauteur, les premières années de la vie de Noach n'ont pas été évidentes, avec des gens qui ne partageaient pas du tout sa vision de la vie. Et donc 600 ans, ben non, finalement c'est exactement ce qu'il faut par rapport à la vie qui est celle de Noach. C'est la maturité qu'il lui faut pour pouvoir se confronter à cette difficulté. Et je te rappelle, Liron, mais tu dois le savoir,
oui,
que la Teva, elle ne s'est pas construite en un jour. C'est un projet de 120 ans. 120 ans durant lesquels Noach, malheureusement, même s'il a réussi à construire cette Teva, il n'a pas réussi à secouer sa génération.
Alors,
et c'est ce qu'on lui reproche.
Juste avant, Liron, tu m'as posé la question. Est-ce que tu as évidemment préparé la paracha ? Est-ce que c'était long à préparer ? Est-ce que c'était compliqué ? Bon, il a eu un super prof en même temps,
ouais.
Donc je t'écoute.
Alors c'était long, mais à force de travailler, j'y suis arrivé.
Voilà.
C'est le travail qui paye.
Voilà.
C'est vrai.
Alors qui c'est qui t'a appris ta paracha, Liron ?
Mon grand-père, David Selam.
Donc tu vas dire en algérien alors ?
Ouais.
Pas en algérien, en mot à vite, s'il vous plaît.
En mot à vite.
Pas ouais. Tout changer dans la vie. Allez Liron, tu veux une question ?
Quand on lit le texte sur la construction, il y a plein de mesures, de choix. Pourquoi tant de détails ? Et pourquoi nous serons amenés à reconstruire l'arche, monsieur le grand rabbin ?
Ah, ça, c'est une question très difficile. Alors, est-ce qu'on sera amené à reconstruire l'arche ? Peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, ce qui est certain, et c'est peut-être ce qu'évoque ta question
aussi. Au moins dans la symbolique.
Voilà, tout à fait. C'est que la Teva, cette arche que Noach se construit, en réalité, c'est quelque chose qui doit nous parler à chacune et chacun d'entre nous. Et de la même manière que Noach a su se construire cette Teva pour se protéger, eh bien, on doit se poser la question de savoir comment est-ce qu'à notre niveau, on doit être aussi capable, à certains moments dans notre vie, de nous construire aussi cette Teva pour nous protéger de tout le maboul, du déluge auquel on peut assister autour de nous. Je te rappelle que ce déluge non seulement était violent, de par la quantité d'eau qui est tombée, mais c'était aussi de l'eau bouillante, et donc il y avait bien sûr grand tumulte à ce moment-là. Et on est tous amenés dans notre vie à vivre des situations dans lesquelles eh bien, le Maboul peut s'exprimer autour de nous sous des formes différentes. Et je crois que ce qui incombe finalement à un juif, c'est d'être capable, dans ces moments de difficulté, de se construire aussi une Teva. La Teva, c'est cet endroit dans lequel on va pouvoir retrouver une certaine forme de sérénité, de calme.
Oui.
C'est intéressant parce que Noach s'isole dans la Teva avec sa famille. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on est capable de se ressourcer avec sa famille. Et je sais à quel point la famille, c'est
très important
chez les Selam, mais aussi chez les Benabou. Il y a une culture de l'attachement à la famille, des valeurs partagées avec la famille. Donc tu vois, c'est vraiment une paracha qui te correspond parfaitement. Et c'est sans doute cela, la symbolique de la Teva. Au niveau des mesures, on n'a malheureusement pas beaucoup le temps pour en parler, mais les mesures, surtout à un niveau kabbalistique, bien sûr, elles ont une importance tout à fait particulière. C'est pas pour rien qu'on nous donne ces détails. C'est que la Teva, en réalité, elle était à la fois très grande, mais à la fois très petite par rapport au nombre de personnes qui l'a peuplé. puisque au-delà de Noar, sa femme, ses enfants, ses fils, ses trois fils et ses trois brus, tu le sais, Liron, il y avait foule d'animaux.
Justement, une question sur Liron, sur ça.
Vous pouvez nous dire comment s'est fait le choix des animaux? Et on voit souvent le chiffre 7. À quoi ça correspond?
Alors, le choix des animaux, en réalité, il a été imposé. Et nous voulions des représentants de toutes les espèces, parce qu'il s'agissait de reproduire un monde qui soit proche du monde initial et dans lequel toutes les espèces puissent être présentes. Et donc, Akadosh Baruch Hu a décidé de demander à Noar de prendre... Pour les espèces pures, il y avait un petit avantage, effectivement, il y a ce chiffre 7 qui revient, ce qui n'était pas le cas pour les espèces impures, où on s'est limité à un couple, mais pour les espèces pures, le chiffre 7 est un chiffre qui incarne tout simplement celui de la création du monde. La création du monde s'est faite en 7 jours, il y a eu 6 jours de production, le 7e jour qui est le jour du Shabbat, et le 7, c'est un chiffre qui est énormément repris par le Maharal et par les grands penseurs, c'est le chiffre qui incarne la nature. Donc c'est ce qu'on voulait finalement, c'est donner une deuxième chance à cette nature, et c'est pour ça qu'au travers des espèces pures, c'est ce chiffre 7 qui revient, ce que l'on n'a pas voulu accorder aux espèces impures, auxquelles, même si elles n'ont pas choisi d'être impures, on pourrait me dire, mais c'est un peu arbitraire finalement, comment est-ce qu'on définit une espèce pure d'une espèce impure? C'est Akadosh Baruch Hu qui en décide ainsi, c'est la Torah qui, selon certains signes, va accorder ce titre d'espèce pure à certains animaux et ce titre d'espèce impure à d'autres animaux, mais on ne voulait pas que ce qui évoque une espèce, alors qu'il peut être impure soit par ses caractéristiques ou parfois tout simplement par sa manière d'agir, par ses midotes, par ses qualités ou ses valeurs, qu'elle puisse être une forme d'exemple. Donc on a limité le nombre d'animaux et ce qui incarne vraiment la nature et le modèle à suivre, ce sont les espèces pures au travers de ce chiffre 7.
Pourquoi Dieu a choisi l'eau pour recouvrir la terre? Il y a peut-être un rapport avec le mivé de se purifier comme ça?
C'est une idée très chassidique, ce que vous évoquez, Jean. C'est une idée qui me parle beaucoup parce que comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à la chassidoute. Et effectivement, Jean, c'est parfaitement l'idée du mivé que l'on retrouve autour de l'eau ici, avec quelque chose d'inédit dans l'histoire du monde, puisque les eaux d'en bas ont retrouvé les eaux d'en haut. Et donc, il y a non seulement cette notion de mikvé, c'est-à-dire que Dieu avait besoin de purifier un monde qui était devenu impur, mais qui était devenu impur à un stade qui était irrévocable, un stade dans lequel on ne pouvait malheureusement plus changer les choses autrement que par cette immersion dans un mikvé. Alors c'est d'une violence inouïe, parce qu'on se dit, plonger le monde entier, l'univers tout entier dans un mikvé, c'est forcément... créer des dommages collatéraux, et ces dommages collatéraux, c'était la destruction, hormis bien sûr le miracle de Noach et de ceux qui habitaient dans la Teva, de toute l'humanité, même de tout ce qui poussait sur la terre, avec cette eau bouillante, et ces eaux d'en bas qui rejoignent les eaux d'en haut.
Donc, c'est bien sûr
c'est l'immersion totale dans un mikvé, comme vous le savez.
C'était de l'eau froide.
Pardon ?
C'était de l'eau froide.
Alors c'était de l'eau bouillante, c'était de l'eau bouillante, c'est ça ce qui a été absolument terrible dans l'histoire du Maboul, c'est qu'au-delà de la quantité d'eau qui s'est abattue sur le monde, et donc de ces morts par noyade, l'eau était bouillante et elle n'était froide qu'autour de la Teva, de manière un peu miraculeuse pour permettre aux habitants de la Teva de ne pas mourir brûlé non plus par cette eau bouillante. Et donc Jean, vous me permettrez simplement une dernière remarque, c'est que donc il y a cette notion de mikvé, mais il y a aussi la notion très intéressante de retour à l'état initial. Or, à l'état initial, vous en souvenez, parce qu'on a étudié ça la semaine dernière, Jean, il n'y a pas de séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut.
En tout cas.
Exactement. Et donc, on va revenir, c'est un peu un reset. L'histoire du Maboul, c'est un reset. On va épargner Noar et sa famille, mais pour le reste, eh bien, on appuie sur le bouton reset et on revient à l'état initial du monde, où il n'y a pas de séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et c'est cette jonction qui crée ce Maboul.
J'ai voulu lancer, mais je ne voulais pas, mais bon, tant pis. Il y a quand même une question intéressante, c'est qu'à la fin des jours, Dieu dit, bon voilà, j'ai fait ça, c'était bien, c'était bien. Donc au départ, c'était pas bien. C'était pas comme il fallait, puisqu'il a refait.
Alors vous posez une question en réalité qui n'est pas sur la création, sur ce qui s'est passé par la suite. Parce qu'effectivement, alors il y aurait tout un... Shiur, on a eu une paracha de Bereshit qui a été un peu sacrifiée cette année parce qu'elle arrivait au lendemain de Simchat Torah et donc c'est une configuration qui fait qu'on n'a pas eu le temps de traiter à la radio la paracha de Bereshit. On n'a d'ailleurs pas beaucoup eu le temps de l'étudier non plus avec vu sa proximité avec les fêtes. Mais effectivement, au départ, Kadosh Baruch Hu est très satisfait de ce qu'il a créé. C'est ce qui va se passer après avec bien sûr le libre arbitre qui est laissé à l'homme et à l'humanité, à la création. C'est ce que cette humanité va faire de la création qui au début est très satisfaisante et malheureusement l'humanité ne va pas être à la hauteur du projet. C'est ce qui fait que Akadosh Baruch Hu va décider d'envoyer le Maboul, mais au départ il y a une satisfaction absolue
en
par
gros,
rapport à ce qui a été mis en place.
C'est l'homme qui a fait les mauvaises choses.
100%.
Liron, encore une question, alors on va avancer, il y a eu le Maboul, ça a duré tant et tant, mais Liron a une question sur la fin du Maboul.
Pour voir si la terre est sèche, Noah envoie un corbeau et une colombe. Y a-t-il une symbolique ?
Alors bien sûr, il y a une symbolique. Akadosh Baruch Hu aurait pu souffler à Noah l'idée de vérifier si vraiment c'était cela ici le problème et l'objectif, de vérifier ce que les eaux avaient disparu de la surface de la Terre, est-ce qu'il était possible de sortir de la Teva, aurait pu suggérer à Noach d'autres idées. Alors, je pense notamment, il y a un midrash assez intéressant qui nous dit que Og, qui était un géant, Og Melech HaBashan, lui, eh bien, il s'est accroché à la Teva pour pouvoir survivre pendant ce Maboul, donc lui n'a pas été noyé, et c'est un midrash assez intéressant, d'ailleurs il est resté proche de la Teva, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à cet endroit-là que l'eau était froide, sinon Og aurait sans doute, au-delà de sa grande taille, été brûlé. Il y avait le fait de ne pas se retrouver noyé par les eaux, mais il y a aussi le fait de pouvoir échapper à une mort absolument terrible par la chaleur de ces eaux. Et pourtant, eh bien, on n'a pas fait appel à Og. Og, c'était une tour de contrôle. Hein. Il aurait pu regarder à droite, à gauche, il était dehors de la Teva et dire, informer Noach par un petit SMS ou un petit WhatsApp de l'état de la Terre. Il envoie le corbeau. Le corbeau, c'est un animal qui est connu, un volatile qui est connu pour manger les charognes. Et peut-être qu'en renvoyant le corbeau, et d'ailleurs c'est intéressant parce que lorsque Noach envoie le corbeau, ce qui n'est pas le cas avec la colombe, le verset ne précise pas est-ce que le corbeau a été envoyé pour vérifier l'état de la terre. On nous dit simplement qu'il a envoyé le corbeau, tandis que pour la colombe, il y a vraiment une mission qui lui est assignée. Peut-être que Noir voulait renvoyer en réalité le corbeau sans raison particulière, c'est-à-dire que le corbeau n'avait pas de mission, c'était un moyen de dire on ne veut plus de ce rapport à l'humanité. Voilà, celui qui se nourrit des autres, il se nourrit des charognes, c'est une symbolique très très forte dans le fait de se nourrir du cadavre de l'autre, c'est-à-dire vraiment en profiter jusqu'au dernier instant, ça c'est quelque chose qui est mauvais pour l'humanité. Noir veut reconstruire, il doit reconstruire sur de bonnes bases et se débarrasser de ce qu'incarne ici le haut rêve.
J'ai 4 minutes parce que le temps passe très vite. Juste une question concernant un changement après la Teva, c'est qu'à partir du lendemain du retour, on nous permet de consommer de la viande. Pourquoi cet interdit a été levé ? Pourquoi cet interdit a été mis?
Alors vous faites très bien de le dire parce que c'est pas forcément quelque chose de connu. Nous on a l'impression que la viande c'est quelque chose qui existe depuis toujours et on connaît tous les lois de cacheroute, comment on peut consommer cette viande, sous quelles conditions. Mais vous avez raison Jean, la consommation de la viande c'est un chidouche, c'est quelque chose de nouveau qui intervient au lendemain de la sortie de la Teva. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'homme n'a pas su se placer au-dessus de la création avant l'histoire du Maboul. Et c'est cela le symbole de l'échec de la création, c'est cette incapacité pour l'homme à comprendre qu'il couronne la création et que la création, le reste de la création a été tout simplement mis à son service. Et le fait de lui autoriser la consommation de la viande, c'est peut-être rappeler cette hiérarchie, Jean. Donc il y a une certaine forme d'échec parce que l'homme aurait dû arriver à cela sans l'autorisation de la consommation de la viande. Mais puisqu'il n'y est pas arrivé, eh bien on va rappeler à l'homme quelle est sa place dans la hiérarchie. Et donc il va pouvoir à partir de ce moment-là consommer les animaux. Voilà, tu peux aller manger les animaux, bien sûr on les mange pas gratuitement, on les mange pour nos besoins, il n'est pas question de faire du mal aux animaux sans raison, mais lorsqu'il s'agit de ta consommation personnelle, lorsque c'est pour se mettre à ton service, eh bien il y a cette possibilité qui est offerte.
Ok, j'avais d'autres questions à vous poser, si vous me permettez en une minute. Tu as une question sur l'arc-en-ciel, tu m'as dit Liron, vas-y.
Monsieur le Grand Rabbin, parlez-nous de l'arc-en-ciel qui est en fait un signe d'alliance éternelle. Et comme dirait Jean, dites-moi plus.
Voilà, là, l'histoire de l'arc-en-ciel en une minute, c'est très compliqué. Effectivement, il y a à ce moment-là une alliance qui est faite parce que il faut comprendre que ce qui se passe au moment du Maboul, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, sous cette forme, hein, beaucoup vont s'y prendre. Et d'ailleurs, ça va nous servir hein, au moment des années plus tard, au moment de l'histoire égyptienne et la manière dont on va s'y prendre pour. Essayer de détruire le peuple juif à ce moment-là, ça va se retourner contre les Égyptiens parce qu'on ne pensait pas que Dieu pourrait intervenir de nouveau un jour contre l'humanité avec la force de l'eau, mais sous la forme que cela prend au moment du Maboul, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Et donc cet arc-en-ciel qui intervient, c'est effectivement le signe d'un bérite, d'une alliance qui est passée, qui est engageante. Voilà, on voulait un signe fort qui soit engageant pour l'homme au niveau de tout simplement de sa place dans l'humanité. Et donc ça passe par quelque chose effectivement, de très très marquant, de très visible, mais qui est censé véritablement imprégner à ce moment l'homme et lui faire prendre conscience voilà, qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité et qu'il appartient maintenant à l'homme de faire en sorte que ça ne se reproduise plus.
Alors j'ai deux questions, 2 minutes chacune. Voilà. On commence par le chapitre 39, verset 20. On nous dit, la Torah nous dit, Noah, homme de terre, se rabaissa...
Pas une pomme de terre, hein, Jean. Hein,
homme de terre, ouais. Et se rabaissa et planta un vignoble. Plusieurs mots sont intéressants. Qu'est-ce que dire un homme de terre ? Se rabaissa, est-ce que c'est une forme claire ou est-ce que ça veut dire quelque chose d'autre ? Et planta un vignoble, ça veut dire qu'on pouvait planter que des vignobles.
Ah, vous me posez plein de questions en une question et vous me donnez quelques secondes simplement pour répondre. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est ce que va donner cette histoire. Malheureusement, elle va donner naissance à une vigne. Ça, c'est quelque chose de très, très positif. Maintenant, l'utilisation que va en faire Noir, celle-là est un peu plus problématique puisque Noir va s'enivrer et nous connaissons tous la suite de l'histoire. Alors, Isha Adama, ça peut avoir deux sens, Jean. Et ça évoque... encore une fois, le fait que Noir était un personnage ambigu. Il peut à la fois être Isha Adama, c'est-à-dire un homme, malheureusement, qui était peut-être encore trop ancré dans cette notion de Admout, c'est-à-dire cette notion terrestre. Peut-être qu'on attendait un peu plus de spiritualité de la part de Noir, mais à la fois, Isha Adama, c'est celui qui, au contraire, va se préoccuper aussi des besoins de la Terre, et c'est peut-être, peut-être l'idée que Noir a retenue, la leçon.
Ok, le terme, parce qu'on a, le temps passe, le terme se rabaissa, c'est quoi ? C'est en termes clairs ou alors on a voulu dire autre chose ?
Alors là aussi, il y a, je pense, une ambiguïté. Peut-être le fait de trop se rabaisser et d'être trop enclin finalement à regarder vers la terre au lieu de regarder. C'est ce qu'on attend d'un homme. Hein. L'homme, je le rappelle souvent, c'est un bipède. Et si c'est un bipède et pas un quadrupède comme le reste des animaux, c'est parce qu'on attend de lui qu'il ne regarde pas vers la terre en permanence, mais qu'il soit capable aussi de regarder vers le ciel. Donc c'est peut-être un reproche ici que l'on peut faire à Noir, mais à la fois, si on veut être proche des hommes et proche des autres, il faut être capable de se mettre à leur niveau. Et je vous rappelle que lorsque Moshe Rabbeinu est allé à la rencontre de son beau-père Yitro, eh bien, il s'est aussi prosterné, il s'est aussi baissé, parce que Moshe avait compris que pour rentrer en connexion avec son beau-père Yitro, il devait se mettre à son niveau. Et se mettre au niveau de l'autre, c'est parfois aussi être capable de s'incliner pour bien montrer qu'on ne regarde pas d'en haut, mais qu'on est capable de comprendre la vie qui est la sienne.
On voulait parler aussi, évidemment, de la suite de l'histoire, l'humiliation de Noar. Noar qui prédit l'avenir à ses fils. On voulait parler aussi de la généalogie dans cette paracha qui est très longue. Et on voulait parler de la tour de Babel. On n'aura pas le temps, on vous propose d'aller voir dans vos livres et avec vos rabbins les explications. Fin de cette émission, monsieur Grand Rabbin.
C'était un plaisir. Et on a découvert une nouvelle graine de journaliste.
Voilà, bon voyage.
Merci beaucoup.
D'ailleurs. Monsieur Grand Rabbin, bon voyage, Nissi Atova. Merci énormément à Liron.
Merci.
Je ne partirai qu'après la bar mitzvah de Liron. Hein.
D'accord. Il faut le noter.
Oui, je vais le noter.
Voilà. Merci Liron.
Merci
beaucoup. À vous tous. Rendez-vous à très bientôt. Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidel prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air.